Ma première invitée, Ariane Hébert, est une psychologue dont les livres colorés, la boîte à outils, particulièrement sur le TDAH, vous sont certainement familiers. Ariane Hébert innove avec ce dernier livre dont la couverture oscille entre un jaune soleil et un vert pomme, et elle transmet au monde adulte son savoir partagé auprès des parents. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Stress et anxiété, stratégie et technique pour les gérer » aux éditions de Mortagne. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Bien d'abord, fondamentalement, quelle différence fait-on entre le stress et l'anxiété?
Bien en fait, le stress, là, c'est vraiment concernant les événements qui sont dans l'ici et maintenant, donc qui sont très présents autour de nous. La menace qui génère en fait une réaction physiologique qu'on connaît bien, hein, l'accélération des battements du cœur, le souffle plus court, des tremblements et tout. Donc une mobilisation de nos ressources physiques en fait là, pour être capable justement d'affronter cette menace-là. Alors que l'anxiété, on est beaucoup plus dans des pensées anticipatives, donc des croyances catastrophes. Ça concerne davantage de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. On est moins dans l'ici et maintenant, mais beaucoup plus dans la projection de scénarios tragiques. Et mais cependant, on a quand même des réactions physiologiques qui sont très similaires, là. Donc, l'anxiété aussi génère le ventre tordu, les mémoires, des doux et tout, là. Fait que donc, au plan théorique, il y a bel et bien une distinction entre les deux, mais n'empêche que les deux sont quand même très inconfortables à vivre.
Et est-ce que le stress est la première étape de l'anxiété? Ou c'est vraiment deux choses différentes?
Non, oui, en fait, ça peut être un préalable, mais ce sont deux choses différentes. Donc, on peut très bien là, s'inventer des scénarios catastrophes sans même avoir de stresseurs dans notre environnement. Notre esprit est capable de ça.
Oui, du mieux comme du pire.
Exact.
Et au fil du temps, on essaie toujours d'aborder les sujets avec la lunette de l'intergénérationnel. Donc, je me demandais comment le stress et l'anxiété évoluent au fil du temps. Est-ce qu'on devient plus anxieux en vieillissant ou au contraire, comme on en a vu d'autres, ça diminue?
Les deux sont vrais, j'ai envie de vous dire. Oui, en fait, ce qu'on observe justement, là, c'est qu'il y a certaines personnes qui acquièrent avec le temps un certain lâcher-prise ou tolérance à l'incertitude. En contrepartie, le fait d'avoir plus de temps à sa disposition, par exemple à partir du moment de la retraite, ça peut amener les gens à avoir un moins bon contrôle de leurs pensées parce que justement, ils ont plus de temps d'occasion d'être dans leur tête. Alors là, les scénarios catastrophes peuvent s'installer et se déployer là, avec plus d'aisance. Donc, la littérature nous montre bien là, que les deux tangentes s'observent là, chez les gens d'un troisième âge.
Donc, quand on dit que l'oisivité est le pire des vices, quand on est moins occupé, peut-être qu'on a plus de temps. J'ai déjà partagé ça à un ami dont le père était vraiment toujours en train de regarder dehors ce qui se passait. Puis, à un moment donné, il lui a dit « Je crois que tu n'es pas assez occupé. » Donc, on dirait que ton cerveau cherche de la stimulation sur des petits détails.
Mais c'est vrai, et puis vous savez, en fait, là, il y a une chose que je me souviens très bien d'avoir appris là, dans mes études en psychologie. J'ai un enseignant qui nous disait, vous savez, il y a deux sources de maladies mentales très répandues, une surcharge de stress et une absence de stress.
Ouais.
En ce sens où, justement, quand on n'est pas assez stimulé, on va parfois accrocher sur des détails qui autrement pourraient, dans un courant de vie régulier, nous sembler quasi insignifiants, là. Donc, il faut faire attention, justement, à l'ampleur que peuvent prendre les choses quand on leur accorde trop d'importance. C'est un peu comme, ça me fait penser, tu sais, vous savez, la réalité que vous vivez au moment où vous vous couchez dans votre lit le soir est celle qui vous apparaît au lever du soleil quand vous vous réveillez en forme de votre nuit. Elle peut être vraiment différente, hein? On est un peu là-dedans, tu sais. Donc, des fois, les choses semblent dramatiques à un certain moment parce que la fatigue s'est installée et tout. Et puis, avec un peu de recul, on se rend compte que, mon Dieu, c'est rien ou c'est vraiment pas si grave. Donc, il y a de ça, il faut être capable de prendre un bras de distance, de prendre une belle perspective.
Oui, d'avoir une distanciation psychologique et non sociale avec nos propres pensées.
Exact.
Vous appelez ça, je crois, les distorsions cognitives dans votre livre?
Oui, les distorsions cognitives, ce sont des fausses croyances qu'on entretient à propos des événements qui nous sont arrivés ou de notre façon, en fait, d'interpréter la réalité, la couleur des lunettes qu'on choisit de porter, là. Alors, les distorsions cognitives sont souvent justement des mauvaises interprétations qui vont nourrir nos angoisses, notre stress, notre anxiété et qui sont, en somme, très néfastes, mais heureusement, sur lesquels on a une emprise pour tant soit peu qu'on leur accorde de l'importance, ou en fait qu'on s'y intéresse et qu'on cherche à les modifier, là. Donc, la première étape, bien entendu, c'est d'identifier ces distorsions-là, ces mauvaises croyances-là. Et après, ben, on peut faire un travail là, sur se forcer, en guillemets, à adopter d'autres visions des choses, là, se remettre en question et à mettre des lunettes plus roses.
Parlons justement de solutions. Vous abordez dans votre livre les ressources personnelles stables et les ressources versus les ressources instables. J'ai envie de vous entendre sur ces deux volets.
Bien, en fait, les ressources personnelles stables, c'est celles qui sont moins appelées à changement dans le cours de la vie ou à cause des événements, si on veut. Donc, par exemple, la personnalité, c'est pas nécessairement quelque chose qui change rapidement. Notre estime de soi, notre façon de voir les choses aussi. Donc, ça, c'est relativement stable dans le sens où, bien qu'elles peuvent changer, tout n'est pas immuable, mais somme toute, à travers le temps, elles restent plutôt pareilles. Alors que les ressources instables, ben, là, on parle, par exemple, de notre niveau d'énergie, de notre fatigue, de la présence ou de la disponibilité des gens qui nous entourent, de ce qu'on vit actuellement dans notre vie. C'est comme, par exemple, j'aime croire que la pandémie, c'est instable.
Oui.
C'est ça. Donc, voilà. Donc, évidemment, la façon d'aborder ces ressources-là, en fait, la façon de moduler ces ressources-là va être très différente, que ce soit des stables ou des instables.
Avant d'entendre la pièce musicale que j'ai choisie pour notre entretien, j'ai une question justement qui va un peu dans ce sens-là. J'ai longtemps, plus jeune, dans la vingtaine, tenté beaucoup par mon cerveau de revoir des perspectives, de remettre des choses avec du recul. Et là, j'ai fait la découverte merveilleuse de la course. Et je me rendais compte à quel point, justement, des choses qui avaient une grosse ampleur après 30 minutes de course, tout à coup, venaient de s'évanouir. Et je me dis, mon Dieu, que j'aurais aimé savoir ça avant.
Oui. Ben, en fait, là, c'est drôle que vous nommiez la course parce que l'exercice physique, mais notamment la marche et la course, produisent des hormones antidépresseurs et anxiolytiques, en fait, naturelles. Et effectivement, en soi, c'est une excellente stratégie de faire diminuer son anxiété et son stress. Mais par surcroît, ça vous place dans un état, j'ai envie de dire, quasi de transe, là, où vous êtes livré à vous-même et où les réflexions viennent de façon abondante à votre esprit. Et donc, un très beau moment à s'accorder pour réfléchir. Donc, marcher ou courir, vous avez trouvé une très bonne stratégie de gestion de stress et d'anxiété naturelle.
Ben je le dis, j'insiste, j'aurais vraiment aimé savoir ça justement à 20 ans.
Mais c'est parce que mon livre n'existait pas dans
ce temps-là. Ariane, je vous propose qu'on écoute une pièce musicale qui est fort bien titrée. C'est de Cire Pathétique et ça s'appelle Anxiété. Donc, Ariane, pour citer Cire Pathétique, comment on fait pour donner son 4% à l'anxiété?
Mais d'abord, on ne l'engage pas.
Oui, c'est ça, c'est bon.
Mais en fait, on rit, là, mais le stress et l'anxiété, la gaffe, si je peux m'exprimer ainsi, que plusieurs personnes font, c'est d'attendre qu'ils soient bel et bien installés pour justement envisager des techniques pour s'en débarrasser. Alors que les stratégies préventives sont tout aussi importantes. Donc, il est possible, dans un premier temps, de faire le tour du jardin et d'identifier les événements qui sont susceptibles d'occasionner du stress et de l'anxiété. Et, bon, se poser la question, est-ce que ces événements-là sont nécessaires? Est-ce que je peux amoindrir les impacts qu'ils vont avoir sur moi? Ou est-ce que je peux, à tout le moins, les répartir dans le temps? Parce que stress et anxiété, on est tous capables d'en prendre prendre à une certaine dose. Ça fait partie de la vie. C'est quand ça se présente tout d'un coup que là, ça nous arrive d'être submergé. Donc, par exemple, si je dois déménager, est-ce nécessaire au même moment de rénover dans ma nouvelle demeure la salle de bain, ou est-ce que je peux étaler des sources de stress sur des moments plus longs, de sorte que je vais être capable d'en absorber un petit peu, ben, pas davantage, mais justement d'étaler là, ces sources-là. Donc ça, c'est une première chose à faire. D'autre part, il y a toujours l'hygiène de vie aussi qui est à regarder, parce que quelqu'un de fatigué devient nécessairement plus stressé, quelqu'un dont l'alimentation n'est pas équilibrée est à risque de carence qui entraîne une influence sur ses humeurs. Bon, alors ça, ce sont des stratégies préventives. Maintenant, en dépit de toutes ces belles stratégies-là, il va arriver que néanmoins, les événements de la vie nous placent en surcharge par rapport au stress. Pensons justement à ce qui nous passe en ce moment, donc la pandémie, on voudrait bien pouvoir l'éviter, hein, mais là, à ce moment-là, c'est comme pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, comment on fait pour se débarrasser du stress et de l'anxiété qui aura réussi à s'initier? Là viennent les stratégies, justement, de plus corporelles, de relaxation, de respiration, les stratégies cognitives, restructurer sa pensée, essayer de prendre les choses d'un autre angle, de voir justement la situation sous une note plus positive, ou trouver bénéfice à travers tout ce que le mauvais qui semble survenir. Et finalement, les stratégies comportementales, donc prendre du temps pour soi, s'amuser, prendre des moments avec les gens qu'on aime, virtuellement ou physiquement. donc voilà, on va attaquer sur les trois fronts. Donc, je le répète, il va y avoir des stratégies vraiment très corporelles, il va y avoir des stratégies comportementales et finalement, des stratégies qui sont davantage orientées vers les pensées.
Vous avez dans votre livre une courbe je ne pouvais m'empêcher de penser à la fameuse courbe d'Horacio Arruda qu'on cherche à aplatir, mais une courbe sur la performance où justement un bon stress nous motive et nous donne de l'énergie et qui arrive à un certain plateau où au contraire, là, on est à risque de tomber dans l'épuisement. Pouvez-vous me parler un peu de cette courbe-là?
Oui, ben en fait, le stress et l'anxiété, comme je disais, tout le monde en vit, et jusqu'à un certain point, c'est bénéfique. C'est-à-dire que le stress va faire en sorte d'augmenter notre vigilance et de nous aider à nous mobiliser, nous motiver en quelque sorte. Voyez, si par exemple, vous êtes légèrement stressé avant de faire une présentation à votre patron ou vos collègues, ça va vous inciter à vous préparer davantage, à vous réviser, à vous coucher un petit peu plus tôt la veille. Donc, tous ces facteurs-là de stress vont augmenter jusqu'à un certain point votre performance. Donc, c'est bénéfique, le stress, jusqu'à ce qu'on atteigne le point de rupture. Donc, en haut de la courbe, plutôt qu'augmenter votre performance, passer ce point de rupture-là, ça va avoir l'effet inverse. Si vous êtes trop stressé, vous allez paralyser, vous allez être contre-performant, la fatigue va s'installer, l'épuisement également. Alors là, on observe justement, là, plutôt qu'une belle mobilisation, un découragement et une baisse de la performance. Donc, en somme, même il y a des auteurs qui disent que sans stress, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Ça fait que je ris toujours en disant que c'est très valorisant pour la race humaine de penser comme ça, n'est-ce pas? Mais en somme, donc, il faut retenir que le stress à petite dose, c'est une bonne chose. C'est juste qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil, une certaine limite, parce que non seulement c'est désagréable, très inconfortable à vivre, mais en plus, ça nuit à notre performance.
Il y a un élément que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans votre livre. On parle, bon, des éléments pour tous ceux qui sont familiers avec la psychologie, la différence entre le soi idéal, le soi réel et tout ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous dites la différence entre le soi idéal et le soi réel peut entraîner des sentiments dépressifs, tandis que la différence entre le soi obligé et le soi réel, là, on tombe dans le stress et l'anxiété. J'aimerais ça vous entendre développer cette idée.
Oui, ben en fait, ça, c'est des concepts de soi. Donc, le soi réel, c'est celui qu'on pense qu'on est. Hein, puis tout est sujet à perception, n'est-ce pas? Mais donc, le soi réel, c'est la personne que je crois être. Le soi idéal, c'est celui que j'aimerais donc être en fonction de mes critères à moi, de mes valeurs à moi. Et si je sens qu'il y a un écart entre celui que je voudrais être et celui que je suis vraiment, à ce moment-là, justement, c'est des affects dépressifs. ça me décourage mm-hmm. de voir que j'atteins pas mon idéal. Donc, par exemple, disons un exemple classique de la jeune fille qui regarde le mannequin dans la revue, puis ça représente son soi idéal. Elle voudrait donc avoir ces courbes-là et cette shape. Je cherche mon mot français.
Silhouette.
Oui, cette silhouette-là. Elle a la perception qu'elle ne correspond pas à ça. Ben là, ça va l'amener justement à se sentir plus morose. Alors que le soi obligé, c'est le soi qu'on a l'impression qu'on devrait être. Les attentes des gens qui, à notre égard, ou même les attentes qu'on se met soi-même là, par rapport à nos obligations. Donc, par exemple, le soi obligé, si j'ai la perception que, mon Dieu, mes parents, c'est encore une fois, prenons un jeune adolescent, mes parents voudraient que je sois médecin, j'arrive pas à avoir les notes, à ce moment-là, je vais vivre des sentiments anxieux. J'arrive pas à atteindre le but que je me suis ou que les autres m'ont fixé. Donc là, il y a une menace réelle là, dans cette incapacité-là à atteindre mes objectifs. Donc, c'est plus le stress et l'anxiété à ce moment-là là, qui prennent place. Là.
Un dernier conseil, Ariane. On dit dans votre livre que aider, ça aide. Sauf que là, on est dans une situation où... comment on fait pour aider à distance?
Écoutez, aider à distance, là, une oreille attentive, une parole, un texto, un petit courriel, juste une présence en soi, là, c'est la meilleure aide qu'on peut offrir. Donc, bien entendu, le fait de ne pas pouvoir le faire physiquement, ça présente un petit défi supplémentaire, mais qui n'est vraiment pas insurmontable. Parce que l'idée, là, on n'a pas besoin d'avoir suivi un cours en psychologie nécessairement pour être un bon mm-hmm. aidant. L'idée, c'est d'assurer une certaine présence constante. Ça, en soi, c'est super aidant. Et se mettre cette obligation-là, cette responsabilité-là, ça nous valorise, ça nous donne l'impression qu'on a une réelle importance et qu'on peut faire une vraie différence. Et juste ça, ben, ça nous aide, nous aussi.
Merci. C'est pas merveilleux. Merci beaucoup, Ariane Hébert. Merci.
C'est un plaisir.